Lettre 17e de la gourmandise. Mon cher Wormwood, la façon méprisante dont tu parles dans ta dernière lettre de la gourmandise comme moyen de gagner des âmes ne fait que prouver ton ignorance. Un de nos exploits des 100 dernières années a été justement de faire taire la voix de la conscience humaine sur ce point, de sorte que de nos jours, tu aurais de la peine à trouver dans toute l'Europe un seul sermon prêché sur ce sujet, ou une seule personne ayant des scrupules dans ce domaine. Ceci a pu se réaliser en grande partie parce que nous avons concentré nos efforts sur la gourmandise du gourmet, et plutôt que sur celle du glouton. Et comme je l'ai appris en consultant son dossier, et comme tu le tiens sans doute de Glebos, la mère de ton patient en offre un exemple typique. Elle serait bien surprise, et le sera un jour, je l'espère, de découvrir que sa vie entière a été asservie à ce genre de sensualité. Le fait lui échappe totalement, puisqu'elle n'absorbe jamais de grandes portions de nourriture à la fois. Mais qu'importe la quantité, si seulement nous réussissons à nous servir du ventre de l'homme ou de son palais pour provoquer des récriminations, de l'impatience, un manque de charité et de l'égoïsme. Glubos tient la vieille femme bien en main. Elle est la terreur de ses hôtesses et de ses domestiques. Elle refuse tout ce qu'on lui offre en disant d'un air posé, avec un petit soupir et un sourire, « Oh, s'il vous plaît, tout ce que je demande, c'est une tasse de thé, pas trop fort, mais non pas plus trop faible, avec un tout petit morceau de toast bien croustillant. » Tu comprends? Comme ce qu'elle exige est plus petit et moins coûteux que ce qu'on lui offre, elle ne considère jamais comme de la gourmandise son obstination à obtenir ce qu'elle désire, quel que soit le dérangement qu'elle occasionne ainsi aux autres. Au moment même où elle satisfait son envie, elle croit pratiquer la tempérance. À table dans un restaurant bondé, elle pousse un petit cri d'horreur en voyant le plat que la serveuse, débordée de travail, vient de poser devant elle et s'exclame « Oh, c'est beaucoup trop! Emportez-moi tout ça et ne m'en rapportez que le quart tout au plus !» Si on la questionnait, elle affirmerait qu'elle agit ainsi pour éviter le gaspillage. En réalité, elle le fait parce que, du fait de la finesse de goût toute particulière à laquelle nous l'avons asservie, la vue d'une quantité de nourriture supérieure à ce qu'elle peut absorber lui cause une sorte de répugnance. La valeur réelle de l'action calme et discrète que Glubos a menée depuis des années dans la vie de cette vieille femme peut se mesurer à la façon dont son estomac domine maintenant sa vie tout entière. Elle se trouve dans ce qu'on pourrait appeler l'état d'esprit « tout ce que je veux ». En effet, tout ce qu'elle veut, c'est une tasse de thé bien préparée, ou un œuf à la coque bien à point, ou un morceau de toast bien croustillant. Mais elle n'arrive pas à dénicher une cuisinière ou à trouver une amie qui sache faire convenablement ces choses pourtant si simples, parce que chez elle, le mot « convenablement » recouvre une avidité insatiable d'éprouver le plaisir exact, mais quasiment introuvable maintenant, que son palais aurait connu par le passé. Un passé où, comme elle se plaît à dire, on pouvait encore avoir de bons domestiques, mais où en réalité, comme nous le savons fort bien, il était plus facile de satisfaire ses sens et où elle goûtait d'autres plaisirs et comptait ainsi beaucoup moins sur ceux de la table. En attendant, les déceptions quotidiennes entretiennent sa mauvaise humeur, et ses cuisinières, l'une après l'autre, donnent leur congé, et elle refroidit toutes ses amies. S'il arrive que l'ennemi éveille en elle le moindre soupçon au sujet de l'importance qu'elle attache au manger et au boire, Glubos riposte en lui soufflant à l'oreille que ce qu'elle mange lui est totalement indifférent, mais qu'elle aime que les choses soient bien faites pour son garçon. En réalité, la gourmandise de sa mère a exaspéré celui-ci depuis des années et a gâché pour lui toute l'atmosphère de la maison. Or, ton patient est le fils de sa mère. Tout en engageant le gros de tes forces sur notre front, et tu as raison de le faire, laisse aussi un peu de gourmandise s'infiltrer en douce chez lui. Étant un homme, il y a peu de chances qu'il se laisse prendre par la feinte de « tout ce que je veux ». Mais on transforme plus aisément les mâles en gloutons en flattant leur vanité. Il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine, qu'il se pique d'avoir découvert le seul restaurant en ville où l'on sait cuire à point une entrecôte. Ce qui n'est que vanité au début peut par la suite devenir une habitude. Mais de quelque manière que tu t'y prennes, l'essentiel est de l'amener au point où le refus de la chose à laquelle il tient, que ce soit la bouteille de champagne ou sa tasse de thé, la sole à la Colbert ou ses cigarettes, le mettra hors de ses gonds, car à ce moment-là, sa charité, son sens de la justice et son obéissance seront entièrement à ta merci. Un simple excès dont le manger et le boire n'a pas la même valeur pour nous que cette gourmandise plus raffinée. Toutefois, sa principale utilité est de servir comme une préparation d'artillerie avant tes attaques contre la chasteté. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, il importe de maintenir chez ton patient une attitude de fausse spiritualité. Ne le laisse pas découvrir le côté purement médical du problème, mais tâche de lui faire croire que c'est à la suite d'un geste d'orgueil ou d'un manque de foi qu'il s'est trouvé aux prises avec toi, alors qu'il suffirait qu'il réfléchisse un instant à ce qu'il a mangé et bu pendant les dernières 24 heures pour découvrir la vraie origine de tes projectiles, ce qui lui permettrait, au moyen d'un petit effort de modération, de mettre en péril tes lignes de communication. S'il faut qu'il pense au côté médical de la chasteté, gave-le de ce gros mensonge que nous avons fait croire aux Anglais, à savoir que l'exercice physique prolongé et la fatigue qui en résulte sont les meilleurs moyens pour cultiver cette vertu. On peut se demander comment ils arrivent à croire ce genre de blague, alors que la sensualité brutale des marins et des militaires est notoire. Il est vrai que pour faire circuler cette histoire, nous avons fait appel aux instituteurs, à ces hommes dont l'intérêt porté à la chasteté n'était qu'une excuse pour prôner les sports et qui, de ce fait, ont prôné les sports comme la bonne méthode pour sauvegarder la chasteté. Mais ce problème est beaucoup trop complexe pour qu'on l'aborde en fin de lettre. Ton oncle affectueux, Screwtape.